Église du Lot. Balade découverte des églises et chapelles de notre département. Avec Martine Dufour et Marie-Madeleine Rey.
Bonjour chers amis auditeurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'émission Église du Lot avec Marie-Madeleine Rey. Bonjour Marie-Madeleine.
Bonjour Martine, bonjour à tous.
Alors après avoir été visiter la belle petite église de Francoulès, nous sommes aujourd'hui revenus à Cahors et nous sommes à l'église du Sacré-Cœur. Alors cette église du Sacré-Cœur est, je trouve, méconnue par rapport à tout un historique qui est très intéressant et qu'on ne connaît pas forcément.
On ne le connaît pas forcément, mais ça demande un petit peu de temps pour l'expliquer, mm-hmm. parce que je crois que ça le mérite. Mm-hmm. Et on va commencer en 1226. 1226, c'est la date à laquelle l'évêque de Cahors du moment, Guillaume de Cardaillac, demande aux dominicains de Toulouse de s'installer à Cahors. Alors, évidemment, il y a un intérêt un peu politique, puisqu'il s'agit, enfin politique ecclésiale, disons, il s'agit de combattre l'hérésie cathare. Et évidemment, la venue des frères prêcheurs qui ont été créés par Saint-Dominique, évidemment, est d'un grand intérêt pour le diocèse de Cahors. Donc, en 1226, les frères prêcheurs, les dominicains, s'installent sur l'autre rive du Lot, qui était à l'époque qui était occupée par des maraîchers. Mm-hmm. Voilà. Et donc, libre de toute construction. Et donc, ils s'installent, ils construisent non seulement l'église, mais aussi tout un corps conventuel, avec un cloître. Voilà. Et alors, à l'heure actuelle, si on peut voir cet ensemble en photo aérienne, par exemple, mm-hmm. eh bien, on constate que l'église initiale oui. était beaucoup plus grande que l'actuelle. Le chevet est encore conservé, mais enfin, il est envahi par les végétations.
Et quelque peu en ruine.
Et très peu visible. Alors, le chevet lui-même est encore debout,
oui, mais
avec 5 verrières possibles.
Il est quand même il est quand même relativement en ruine.
Sept mm-hmm. verrières, il y avait 7 verrières, donc il était quand même très important. Et il est rompu, si j'ose dire, au niveau du transept. Le transept n'existe plus. Mmh. Et par contre, l'église actuelle va commencer à la troisième travée de l'ancienne église. Alors ça a l'air un peu compliqué ce que je dis, mmh. Mais on va y revenir. Donc ensuite, il était composé donc, de l'église elle-même et d'un cloître qui, à l'heure actuelle, est l'école Saint-Étienne, l'école primaire Saint-Étienne, avec une chapelle privée. Alors, cette église, elle a été la plus grande église après la cathédrale, dans le diocèse de Cahors. C'est pour ça que ce n'est pas rien, le Sacré-Cœur, et qu'il faut s'y pencher un petit peu.
Oui, effectivement, parce qu'on pourrait penser que c'est l'église Saint-Barthélemy qui serait plus grande.
Non, pas du tout.
Et effectivement, là, à la lumière de ce que vous dites, c'est très intéressant.
Saint-Barthélemy n'a pas été terminé. Donc, à l'heure actuelle, elle n'est pas grande. Mmh. Elle n'a que 3 travées. Mmh. C'est peu. Mmh. Alors que celle-ci, actuellement, en a 5. Mais à l'origine, elle en comportait 7.
D'accord.
Au moins 7. Alors, cette église donc, a été construite au XIIIe siècle. Et elle a subi des avatars multiples qui ont suivi l'histoire de France. Hein, consécutif. Donc en 1340, par exemple, il y a une grande crue qui va détruire une grande partie des édifices. Ils seront reconstruits ensuite. Mais 1580 arrive, 1580, Vous savez que c'est l'arrivée d'Henri de Navarre et des Huguenots qui détruisent beaucoup d'églises, et en particulier le Sacré-Cœur. L'église, la nef et le transept seront brûlés et les sarcophages profanés. Donc le Sacré-Cœur a beaucoup souffert de cette période.
Est-ce qu'il a plus souffert que la cathédrale?
Alors la cathédrale a souffert intérieurement de dégradations importantes, mais n'a pas été brûlée par exemple. Hein. Voilà, il y a eu des vols aussi. Mais je pense beaucoup moins que le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur a vraiment souffert. En 1609 par exemple, un incendie détruit une partie, on reconstruit. Puis en 1783, une inondation de nouveau, parce que c'est vrai que c'est tout près du Lot. Hein, la terre est basse, là. Voilà. Et donc en 1783, c'est un peu le coup de grâce pour cette église et ce couvent. Et en 1790, alors là, les biens deviennent biens nationaux, hein, avec la Révolution. Alors, à ce moment-là, une verrerie s'installe. Une verrerie. Le quai est la place
de la
verrerie.
Tout à fait.
Voilà. Parce que, donc, jusqu'en 1848, elle va durer, cette verrerie, à la place de ce couvent. Et, alors, ce qui est bien, c'est qu'en 1851, enfin, le diocèse récupère l'église. 1851, la date est importante parce que elle va être la nouvelle église reconstruite d'après les ruines, va être consacrée en 1854, c'est-à-dire 3 ans seulement après le début de la reconstruction. Ce qui fait que c'est normal puisqu'ils se sont servis des ruines. Ils n'ont pas eu à refaire des fondations, ils ont eu simplement à raccourcir l'église. Simplement, ils ne se sont servis que des choses certainement qui tenaient encore debout. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, elle n'a que 5 travées par rapport à 7 ou 8 qu'elle pouvait comporter à l'origine.
Et lorsque nous sommes à l'intérieur, Marie-Mathe, je vais juste faire une petite relation. Est-ce que il y a une espèce d'échafaudage? Est-ce que c'est parce que les murs ne tiennent pas? Peut-être dû à ces différentes époques?
Oui, bien sûr, certainement. Les ans ont fait leur travail, donc à l'heure actuelle, il faut soutenir ce qui est d'origine, finalement. Ce qui est d'origine, c'est-à-dire du XIIIe siècle. Voilà.
D'accord. Alors, nous revenons donc dehors, au niveau de
l'église. Alors, on voit bien sur le côté sud qu'il y a 5 travées, et dont le chœur hein, en fait partie, mais que par rapport à l'est, si vous voulez, il y a encore une travée qui est visible, une travée d'origine, mais y a des arrachements qui prouvent qu'il y avait une travée supplémentaire, et surtout le transept. Le transept, pas avant le chœur. Alors, ce qui est, à mon sens, intéressant maintenant, c'est de nous rendre à l'entrée
de
l'église.
Tout à fait, parce qu'il y a un portail qui va, je pense, interpeller nos auditeurs.
Voilà, alors cette façade actuelle présente donc une porte avec un trumeau.
Alors, un trumeau.
Un trumeau, c'est au-dessus d'une porte.
Voilà.
C'est l'espace, ici lenticulaire, si on peut dire, enfin en demi-lune, qui se trouve au-dessus de la porte. On va y revenir, il y a des inscriptions dessus très intéressantes. De part et d'autre, dans la partie médiane, il y a 2 vitraux. On les étudiera quand on sera à l'intérieur. Et au-dessus, une rosace. Petite rosace, mais une rosace. Et alors, si on se tourne vers la droite de la porte, on voit d'ailleurs un arrachement d'une ancienne travée et un arc qui est bouché à l'heure actuelle qui prouve qu'il y avait donc au moins une autre travée. Hein, voilà. Alors, ce portail est très intéressant. Il est donc de 1854, hein, il a été, et il contient des inscriptions.
Un certain nombre,
voilà,
d'ailleurs.
Voilà, un certain nombre d'inscriptions qui sont importantes. Alors, on va peut-être en lire un certain nombre. On va commencer par le début. Alors voilà ce qui est écrit, cette église. Donc c'est une inscription, je répète, de 1854, la reconstruction de l'église et la consécration. Cette église, grâce à la générosité de Madame Bladinière et de Madame la comtesse de Maubourg, fut rendue au culte sous le vocable du Sacré-Cœur de Jésus le 10 juillet 1854 par Monseigneur Bardou, évêque de Cahors. Je continue l'inscription. Elle fut une ancienne chapelle des Dominicains, appelée de Toulouse sous l'épiscopat de Foulques en 1226, qui était lui évêque de Toulouse, par Guillaume IV de Cardaillac, évêque de Cahors, et établie à Cabessu de 1226 à 1790, ce que je vous disais tout à l'heure. Les ruines de l'abside primitive, qui nous rappellent la prise de ce faubourg de Cahors par Henri IV en 1580, c'est toujours l'inscription, hein, attestent aussi la splendeur passée de cet édifice, l'une des plus belles basiliques de France et l'importance du couvent, l'un des plus considérables de l'ordre. Le 14 janvier 1609, un incendie dévora ce monastère que les consuls firent reconstruire en vertu d'une ordonnance royale. C'était Henri IV. Mmh. Évidemment, il avait fait tellement de dégâts avec ses huguenots quelques années précédentes que, une fois devenu roi, eh bien, il a dédommagé quand même la ville de Cahors, hein, et il a ordonné la reconstruction de ce monastère. Voilà. Alors, ça c'est le début de l'inscription. Donc, vous voyez, c'est le résumé de l'histoire. Mm-hmm. Le résumé de l'histoire. Alors, ensuite,
on aperçoit.
Voilà, alors, autour.
Tout à fait au-dessus.
Au-dessus, oui, sur l'archivolte, il y a aussi une inscription qui est très intéressante. Alors, voilà ce qu'elle dit. Salut à toi, voyageur. Prie tous ces défunts et devant ces ruines et ces glorieux morts qui attendent le réveil suprême. Apprends que tout est vanité, or aimer Dieu et ne servir que lui. Voilà ce qu'on peut lire sur cette archivolte quand on passe devant. Hein, voilà, voyageur, ça s'adresse aux voyageurs de passage. Ça peut s'adresser aussi aux paroissiens qui entrent dans cette église. Alors pourquoi parle-t-il ?
Aux voyageurs, aux pèlerins, aux paroissiens,
oui,
voilà,
oui.
Tous ceux qui veulent rentrer dans l'église en tout cas.
Voilà, alors pourquoi parle-t-il de ces glorieux morts ? C'est la suite de l'inscription dans la lunette. C'est la suite parce que il est donc question de Gosselin de Jean. Alors c'était deux frères. C'était deux frères qui étaient neveux de Jean XXII. Nous y voilà. Neveux de Jean XXII qui étaient des cardinaux. L'un, Gosselin de Jean, était évêque d'Albano. Et le deuxième, Gosselin, était évêque de Carcassonne. Et ils sont morts. L'un en 1349, l'autre en 1344, et enterré ici.
D'accord.
Ramené par, voilà, hein, par la famille du pape. Voilà. Donc ils sont là. Ils sont dans l'église du Sacré-Cœur. Enfin, ils y étaient du moins. Mm-hmm. Voilà. Alors ensuite, nous y trouvons un dominicain qui s'appelle le frère Jacques de Concotz.
Concotz, je pense que c'est
voilà,
pas loin.
Il était né au château de Concotz. Voilà. Mmh. Donc, il rentre chez les frères prêcheurs de Toulouse et il occupe diverses fonctions bon, dans les couvents environnants. Mais il est nommé prédicateur général en 1315, ce qui n'est pas rien pour l'ordre. Et ensuite, il est évêque de Lodève, mais il devient archevêque d'Aix. Et quand il meurt, il était archevêque d'Aix et il a été surtout le confesseur de Jean XXII. Voilà, là où on retrouve
tout
Jean
XXII. Lié.
Oui,
tout est
lié
à Cahors.
Voilà, il devient confesseur de Jean XXII qui était à Avignon, bien sûr. Mmh. Alors ensuite, nous y trouvons un Pierre Ier de Pirée qui était de Flognac et qui est devenu évêque de Mirepoix. Il a été fait évêque par Jean XXII. Et évidemment, évidemment.
Toujours notre cher
voilà,
XXII.
Voilà. Et ensuite, donc, nous y trouvons Pierre Béraldi, qui a été évêque d'Agde et qui est mort en 1353. Et ensuite, c'est tout. Et la fin de cette inscription, il est écrit donc à côté, et la chapelle des filles de Jésus, je le lis, alors c'est pas très, probablement chapelle Sainte-Agnès des Dominicains, dans laquelle sont ensevelis Arnaud Duez, père de Jean XXII, et plusieurs membres de la famille du grand pape, notre compatriote. Voilà. Donc, tout tournait autour de Jean XXII. Hein. Tous ces personnages, c'était grâce à Jean XXII qu'ils avaient eu leur épiscopat, etc.
Vous venez de parler de la chapelle des filles de Jésus. Est-ce qu'il y a un rapport avec la congrégation des filles de Jésus qui se trouve à Veilas ?
Certainement. Voilà pour l'inscription.
Alors, merci pour cette inscription du portail. Il y a quelques petites... on va dire quelques petites décorations.
Oui, il y a des petits chapiteaux ornés de feuillages, avec entourés donc en cul de lampe, si on peut dire, de petites têtes angéliques, on va dire, de part et d'autre. Voilà pour le portail.
D'accord. Donc, vous en avez fini peut-être ?
Oui, pour le portail, pour le portail, c'est bon.
Avec cette description du portail qui est vraiment très intéressante et qu'on ne voit pas forcément tout de suite à première vue.
Non, on ne
lève
pas attention.
Pas la tête et on n'y fait pas attention.
On n'y fait pas attention.
Donc, nous entrons dans l'église du Sacré-Cœur, qui est une très belle église, tout en pierre d'ailleurs. Hein.
Alors, elle est en pierre et en briques.
Voilà.
Et c'est ce que l'on remarque. Les deux côtés, les murs nord et sud, sont en briques. Mm-hmm. Et ce sont les briques originelles du premier couvent.
Bien sûr. Donc, à première vue, lorsque nous entrons, nous voyons un chœur.
Oui.
Le chœur actuel, tout au moins.
Oui, le chœur actuel.
Qui est très bien, qui est très grand, qui peut recevoir vraiment beaucoup de monde et qui est très, très serein.
Oui, et qui a un fond plat, puisque si on se retrouve à l'arrière, à l'extérieur, on retrouve un fond plat. Mmh. Hein. C'est vrai qu'en 3 ans, ils n'ont pas pu construire un autre chœur arrondi, avec des absides, etc. Mmh. Ils ont fait une seconde façade, si j'ose dire, une façade arrière. Hein. Voilà. Mais il n'y a pas de porte dans cette façade arrière, mmh, bien sûr. Mmh. Mmh. Il y a deux vitraux et une rosace. Voilà.
Peut-être nous commençons par cette visite
alors,
du chœur.
Par le chœur, oui, voilà. Pourquoi pas. Alors, on y trouve un rétable donc, qui est 19e, hein, bien sûr, puisqu'il date de la reconstruction de l'église. Et ce rétable, donc, surprend... Enfin, il est très sobre, hein, il est très très sobre, mais il surprend par ses colonnes. On peut distinguer donc 4 colonnes, 2 de part et d'autre, mais il y en a 3 qui sont en marbre rouge, et celle du côté nord est légèrement plus claire. Donc les 3 en marbre rouge doivent provenir d'un autre rétable, mais lequel on ne sait pas.
Ah, d'accord.
C'est un réemploi. Mmh. Parce que ça, il date au moins du XVIIe siècle. Hein. Ces colonnes datent du XVIIe siècle à peu près. Hein. Voilà. Alors, évidemment, au centre de ce rétable, on trouve un tableau qui pourrait être le Sacré-Cœur, mais qui finalement est l'incrédulité de Thomas, qui représente l'incrédulité de Thomas. Lorsque Jésus montre ses plaies à Thomas, qui ne croyait pas que Jésus était ressuscité. Et donc, on voit Jésus qui lève son bras droit pour que Thomas, à genoux devant lui, et tout humble et tout confus d'avoir douté, eh bien, se voit ses plaies, la plaie du côté en particulier.
C'est C'est un très beau tableau d'ailleurs.
C'est un beau tableau.
Dans l'humilité, c'est un très très beau tableau.
Absolument. Absolument. Alors, de part et d'autre de ce rétable, alors l'hôtel est un hôtel néo-gothique, hein, en calcaire blanc, avec des ogives, diverses et varies, successives, disons, hein, voilà. Alors ensuite, ce rétable est entouré donc de deux vitraux.
De vitraux, oui, tout à fait. Qui sont de même facture, avec ce fond bleu. Qui
alors, ils sont 19e, c'est certainement Monseigneur Grimardias qui les a installés. Hein. Monseigneur Grimardias, qui était évêque de 1866 à 1896. Hein, voilà.
Et dont la cathédrale est
grandement la cathédrale.
Des masses en effigie.
Donc ces vitraux datent de cette époque. Alors on y voit à gauche Jésus Sacré-Cœur qui ouvre sa poitrine et le Sacré-Cœur est dessus. Et de l'autre côté, Notre-Dame, la Vierge, mais également avec un cœur sur la poitrine.
Alors nous avons déjà vu ça à l'église Saint-Firmin de Francoulès,
oui,
Marie-Madeleine.
Exactement.
Alors, quel est l'historique ?
Alors, l'historique se trouve au 19e également.
D'accord.
C'est, je pense, pour cela que Mgr Grimardias a fait faire ce vitrail, parce que en 1854, à Issoudun, un prêtre, le père Jules Chevalier, a souhaité fonder une congrégation missionnaire. Et pour cela, il n'avait pas d'argent. Donc pendant 8 jours, il a prié pour que l'argent lui tombe du ciel, si j'ose dire. Voilà. Pour qu'on l'aide à fonder cette mission. Et donc 8 jours se passent. Et le 9e jour, un monsieur est arrivé et a apporté 20 000 francs de l'époque.
Ce qui était énorme.
Ce qui était énorme en 1854. Hein, voilà. Alors, à partir de là, il a commencé à prospecter et à, évidemment, avertir son évêque et avertir le pape, surtout, hein, pour fonder une congrégation, c'est pas simple. Et ce n'est que 20 ans après, en 1874, qu'il a fondé les missionnaires du Sacré-Cœur et les filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur.
Voilà l'explication.
Voilà l'explication.
Très bien, merci, parce que ça nous manquait, posait un petit peu la question la semaine dernière à Saint-Firmin.
Voilà, alors ça c'est pour les deux vitraux. Alors ensuite, il y a deux
statues de chaque côté
deux
de l'autel.
Deux statues,
hein,
qui sont Pierre et Paul, mm-hmm. Pierre à gauche, Paul à droite. Et donc Pierre qui porte les clés, Paul avec son épée qui lève la main, voilà. Ce sont les deux piliers de l'Église, hein, ils sont dits les deux piliers de l'Église.
Oui, oui.
Pierre, le premier apôtre, hein, le premier évêque et le premier pape. Et Paul, qui n'était pas apôtre de Jésus puisqu'il ne l'a pas connu, uniquement par sa voix lors de sa conversion.
Mm-hmm.
Mais Jésus était déjà mort. Par contre, Paul a connu Luc, qui n'était pas non plus un apôtre, qui est devenu d'ailleurs disciple de Jésus par Paul, puisqu'il était son médecin. Voilà. Et Paul donc a connu Pierre, bien sûr, connu Pierre et les premiers disciples, et avec eux, s'est enrichi de l'enseignement de Jésus et est parti tout autour de la Méditerranée en faisant 3 voyages. Successifs pour enseigner toutes les populations du pourtour méditerranéen.
Merci Marie-Madeleine. Nous arrêtons là momentanément notre visite de l'église du Sacré-Cœur à Cahors, avec le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Marie-Madeleine.
Avec plaisir.
Pour continuer cette visite de cette très belle église qui, je le répète, est fortement méconnue et qui finalement a une richesse historique et une richesse au niveau de l'art sacré qui est assez importante. Merci Marie-Madeleine.
Merci à vous.
Et merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Église du Lot, votre balade hebdomadaire des églises et chapelles de notre département, présentée par Martine Dufour et Marie-Madeleine Rey.